Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Révolutionner son bureau avec du mobilier classé, exiger celui de Jean Zay ou encore choisir un canapé André Poutman pour ajouter la rupture esthétique à l'alternance politique. Un remaniement, une cohabitation ou plus sûrement un changement de majorité sont des périodes d'intense activité pour les équipes du mobilier national. À elles, la charge d'entretenir, de rénover et de placer les plus belles pièces de la République. Mais le mobilier national n'est pas qu'affaire de reliques. Il s'agit aussi d'artisanat et de production. Avec Michel Florisson, administrateur du mobilier national et de la manufacture des Gobelins dans les années 60, découvrez 300 ans de savoir-faire. Une conférence de Michel Florisson, diffusée dans les grandes conférences, le 18 décembre 1961.
Dans le cadre des grandes conférences, nous vous invitons à écouter en nouvelle diffusion 300 ans des Gobelins, une tradition d'artisanat et d'art. Conférence donnée à l'Université des Annales par Michel Florisson, administrateur général du mobilier national et des manufactures des Gobelins et de Beauvais.
Mesdames, messieurs, il est sans doute peu commun, mais c'est certainement un rare plaisir pour un conférencier d'avoir à entretenir un auditoire d'une gloire historique vieille de 300 ans, qui cependant est toujours vivante, qui n'a même pas vieilli, qui se perpétue avec toujours autant de vitalité, qui a su se renouveler avec tant de bonheur et de ferveur que sa jeunesse, à la veille de son 4e siècle d'existence, a su retrouver, malgré quelques défaillances et quelques erreurs certainement qui étaient graves, une fraîcheur de débutante, ce qui veut bien dire que les problèmes de croissance n'ont jamais fini de se poser à son endroit. Par lettre patente de 1707, François de la Planche et Marc de Commence, auxquels la création de la nouvelle manufacture privilégiée est confiée, sont d'abord anoblis. C'est dire en quel honneur et quelle considération le roi tient ses maîtres lissiers, ses entrepreneurs de tapisserie, comme on disait. Ils sont considérés comme commensaux et domestiques de la maison du roi. Par cette décision, la fabrication et le commerce de la tapisserie sont élevés au rang d'actes ne dérogeant pas à la noblesse. Ces lettres patentes sont les lettres de noblesse des lissiers français. Elles complétaient avec magnificence celles par lesquelles le roi, en 1606, avait donné aux deux tapissiers qui dirigeaient alors les ateliers du Faubourg Saint-Antoine, Girard Laurent et Maurice Dubout, droit de logement et droit de tenir atelier au Louvre, afin, avait stipulé le document officiel, de provoquer l'alliance de l'esprit et des beaux-arts avec la noblesse et l'épée, ce qui pourrait donner à penser que celle-ci n'était guère pourvue de cela. Et si les plus excellents maîtres du royaume, comme il était dit, n'avaient pas alors été anoblis, le titre d'illustre leur avait été concédé, ce qui, certes, était déjà pas négligeable. Mais ces lettres patentes de 1607 contenaient d'exceptionnelles clauses commerciales qu'il n'est pas inintéressant de connaître, car elles contiennent les bases mêmes sur lesquelles Louis XIV édifiera les Gobelins. Elles ne confèrent rien moins qu'un monopole. Pendant 15 ans, qui furent prolongés, décrète le texte, nul ne pourra imiter les manufactures des seigneurs François de la Planche et Marc de Commence, et l'importation des tapisseries étrangères est interdite. Tout le marché est donc entre les mains des deux beaux-frères. En outre, leur logement et celui de leurs 200 ouvriers qui furent déclarés régnicoles et naturels, c'est-à-dire qui furent naturalisés français ipso facto, sont aux dépens du roi, privilège qui n'a jamais été abrogé. Ces ouvriers sont exemptés de toute taille et de toute charge pendant le même temps qui, hélas, lui, ne fut pas prolongé jusqu'à notre ingrate époque. Le roi, de plus, prenait en charge la pension des apprentis dont le nombre, au bout de 3 ans, dut atteindre 65. Les matières premières employées sont, sauf pour l'or et la soie, exemptées d'imposition, et à chacun des deux entrepreneurs, le roi fit une pension de 1500 livres, laquelle fut augmentée d'une somme de 100 000 livres pour frais de première installation, clause qui hérissa tant le sage Sully. Le plan que Colbert méditait était celui même déjà dessiné par Henri IV, mais développé, agrandi. La création d'une industrie nationale, d'un marché commercial, ce sont les gobelins qui lui permettront de le réaliser. La condition première pour y parvenir, c'était de regrouper la profession, d'assurer une triple centralisation, centralisation locale, centralisation administrative, centralisation artistique. La dispersion des ateliers à travers Paris rendait impossible toute réforme valable. À la concurrence qu'avaient systématiquement suscité François Ier et Henri IV avaient succédé de stériles rivalités. Mazarin et Anne d'Autriche les avaient accentuées en suscitant un apport italien. Il existait alors à Paris au moins 7 manufactures privilégiées. C'est aux gobelins que Colbert résolut de les rassembler et le 6 juin 1662, il acheta pour 40 775 livres à un conseiller au Parlement nommé Leleu l'hôtel de la famille Coblin, puis successivement une série de terrains, bref, 9 acquisitions successives pour un prix total de 90 242 livres 10 sous. Là, en quelques années, fut monté le grand complexe industriel de la tapisserie du XVIIe siècle sur un espace traversé de rivières et d'étangs qu'on peut à peu près délimiter actuellement au nord-est par la rue Mouffetard et l'actuelle avenue des Gobelins, alors route de Lyon, au nord-ouest par la rue des Cordelières, qui était une région formée alors de prés, et qui s'étendait très loin vers le sud-ouest entre les actuels boulevards Arago et Blanqui. Cet ensemble comprit dès le début 3 ateliers de haute lice dirigés par des entrepreneurs directement responsables, dont le principal fut Jean Jans, dit Jean de Bruges, à la tête de 67 hautes lissiers et de nombreux apprentis. On le voit dans la célèbre tapisserie représentant la visite de Louis XIV aux Gobelins, le 25 octobre 1667, aux côtés de Jean Lefebvre, qui, ayant abandonné l'atelier qu'il avait fondé aux Tuileries, non plus au Louvre, cette fois-ci, mais aux Tuileries, dirigeait le second atelier des Gobelins. Un troisième était confié à Henri Laurent, qui venait des ateliers du Louvre, et de la même façon, avaient été regroupés sous la responsabilité de Jean de Lacroix, les ateliers de Basse-Lisse. Enfin, la direction artistique du tout avait été remise au décorateur si heureux de Vaux-le-Vicomte, Charles Lebrun. Mais Lebrun, bientôt d'autres ambitions que celle de fournir aux ateliers des cartons ou des modèles. Son but est de créer un style, le style classique français, le style Louis XIV. Ainsi donc au Gobelin, 3 grands dessins, 3 grandes idées se conjuguent pour la plus grande gloire, non seulement d'un règne, mais de la civilisation. L'un, d'ordre industriel, poursuivi par Colbert, le second, d'ordre artistique, poursuivi par Lebrun, et le troisième, est d'un ordre splendidement personnel et égoïste, voulu par le bon plaisir du roi Louis XIV et par le souci de la dignité royale. La création des gobelins n'eut pour Louis XIV d'intérêt, et encore plus celle au même lieu, au même endroit, en 1667, de la manufacture des meubles de la couronne, qui comprenait, outre les ateliers de tapisserie, des ateliers d'ébénisterie, de marqueterie, d'orfèvrerie, de peinture, de sculpture, de mosaïque, de gravure, de ciselure, de fonderie. Cette double création, dis-je, n'eut pour Louis XIV d'intérêt qu'autant qu'elle rendit pratiquement impossible à tout autre que lui l'utilisation des meilleurs ouvriers, des meilleurs artistes et des meilleurs modèles. Il faut en effet se persuader de ce principe sur lequel nous avons déjà insisté en commençant. Vérité évidente et préalable qui peut s'énoncer tout simplement par cette formule « L'art de la tapisserie n'est pas un art de reproduction, mais est un art original, au même titre que le vitrail, la mosaïque ou la fresque. » Ces arts obéissent à des lois intrinsèques et à des impératifs propres, contenus dans leur matière constitutive même, dans l'organisme de leur métier. Ils comportent en eux-mêmes des moyens personnels. Leurs buts sont exclusifs. Ce sont des arts autonomes qui périssent en tant que tels dès qu'il est touché à leur indépendance. C'est ce qui arriva au XVIIIe siècle et plus encore au XIXe pour la tapisserie, quand d'une part on confondit systématiquement la tapisserie avec la peinture et qu'on attacha comme un chef vaincu au char de son vainqueur, le lissier à la traîne du peintre. Peut-être se peut-il plutôt que la peinture au XVIIIe siècle se prit d'une affection particulière pour ce que, certainement à tort et par totale incompréhension, elle considéra comme une rivale et, à trop l'embrasser, risqua-t-elle de l'étouffer. Toujours est-il que l'idée d'une telle rivalité reposait sur l'absurde. Il était absurde de vouloir exiger de la laine et de la teinture les mêmes résultats que ceux que peut donner de la peinture à l'huile sur de la toile ou sur un panneau de bois. Nous avons déjà dit les caractéristiques matérielles de la laine, ses propriétés qu'elle détient seule, sa souplesse, sa chaleur, sa luminosité, ses facultés d'absorption de la lumière et de la couleur. Tout tient en ceci que la laine est une matière vivante et que le but de la tapisserie est la confection d'un tissu dont le dessin et les volumes se forment en même temps que le tissu d'une seule venue sans reprise et sans retour. Le rôle d'une peinture est en quelque sorte de tromper les sens en leur faisant oublier la présence matérielle et bornée du mur de la pièce où elle est accrochée, où elle est peinte. Une peinture troue le mur, perce soudain une fenêtre par où se précipite l'illusion de la nature ou son rêve. La tapisserie, au contraire, affirme le mur en poétisant l'architecture, en la magnifiant sans entrer en concurrence avec elle, mais en l'entourant de sa splendeur amie. Elle ne se conçoit que plane, à deux dimensions, et dès qu'elle accepte une troisième dimension, elle entre dans l'erreur. Les rôles de la tapisserie et de la peinture, s'ils ne sont pas absolument contraires, sont en tout cas nettement différents. Le lissier, quant à lui, n'est pas une machine à transcrire ni à tisser. Il n'est ni un copieur, ni un imitateur. Il ne peut l'être, sinon il n'est plus. Il est même autre chose que le collaborateur des peintres cartonniers. Il est, à mon sens, exactement défini comme un co-créateur. Si, dans la meilleure hypothèse, le peintre crée une peinture, un carton, qu'il a composé et coloré en vue d'une tapisserie, le lissier, lui, est le créateur de la tapisserie. Le peintre propose une création qui est sienne, et le lissier dispose des moyens que lui offre sa technique pour transformer cette création peinte en une autre création artistique. Son devoir d'artiste exige qu'il transpose les intentions plastiques du peintre cartonnier dans une réalité qui obéit aux normes propres de la technique finale. La tapisserie use d'un langage d'autochtone. Son domaine n'est pas celui de la peinture, je dirais presque son pays n'est pas celui de la peinture. Plutôt que de parler de traduction graphique, car il ne s'agit pas dans le passage d'une technique à l'autre d'une simple mutation de vocabulaire ou d'une modification de syntaxe, il vaut mieux dire transplantation, car c'est bien d'un changement de terrain qu'il s'agit, ou greffe, car il y a métamorphose d'un arbre ancien en arbre nouveau et différent qui donne un autre fruit. Ce que le lissier invente, ce sont des équivalences tapissiennes qui lui permettent de rendre les nuances colorées que lui propose le carton du peintre par des tons francs, les volumes et les reliefs par des surfaces simples et pleines, les passages de tons par des oppositions de couleurs affirmant largement les plans. De la palette multicolore du peintre, il doit passer à une palette sobre, restreinte. Mais l'expression ne doit en subir aucune diminution, Elle doit au contraire s'affirmer, vigoureuse, robuste, mettant en œuvre des moyens plus variés et plus souples qu'ils ne paraissent d'abord. Tout un jeu de combinaisons s'offre au lycée quand il se trouve derrière son métier comme devant un clavier. Sa sensibilité et son intelligence sont placées à chaque instant en face de choix successifs. Depuis le moment initial où il décide de la grosseur des fils de chaîne et de leur nombre aux centimètres, où il décide aussi du calibre de la laine de trame, jusqu'à ces moments où il estime devoir préférer, pour une partie déterminée, une technique plutôt qu'une autre, battage, hachure, enlevage, etc. C'est en fonction de ces deux éléments, emploi de colorant et rapport entre peintre et lycier, en fonction de leurs variations réciproques, que s'est écrite l'histoire réelle de la manufacture des gobelins, celle de ses méthodes, de sa vie scientifique quotidienne. Lebrun, qui passe pour avoir été le dictateur des arts sous Louis XIV, paraît au contraire avoir été très libéral dans sa direction des gobelins. Il laissa, nous dit-on, les tapissiers à leur gamme primitive, à leur mode habituel de traduction. Il fit toute confiance à l'expérience des lissiers pour le rendu des couleurs, ne se montrant exigeant que pour le dessin. Cependant, dès 1680, un premier changement s'aperçoit au cours même du tissage d'une tenture, celle des batailles d'Alexandre, et plus précisément entre une pièce de cette série, Les prisonniers au camp, et sa réplique faite peu de temps après par le même atelier. Autant le premier tissage s'affirme par des oppositions dures, violentes, grâce à l'emploi de couleurs franches et solides et de hachures, par la netteté de ses plans, par l'énergie et même le dramatisme des formes et des figures, autant la réplique, obligée qu'elle a été de suivre d'au plus près le modèle peint et plus particulièrement d'imiter les passages de ton, a amolli et affadi toutes les vigueurs de dessin et de coloris. Ce fut là une des premières manifestations de la suprématie bientôt triomphante de l'art pictural, non seulement sur l'art de la tapisserie, mais sur tous les autres. D'esquisses rehaussées, qui, à l'époque médiévale, réservaient à l'initiative des lissiers toute liberté, de guides, d'indicateurs de mise en page, portant de simples notations de couleurs assez vagues pour avoir été qualifié par des ignorants de peinture négligée, qu'il était encore au XVIIe siècle, le carton de tapisserie au XVIIIe siècle s'en vint à se confondre avec une peinture achevée, à partir de laquelle, bientôt, aucune interprétation n'a plus été tolérée. La nomination en 1690 à la tête de la manufacture des gobelins de Mignard, dont toute l'ambition se bornait à obtenir des lissiers une copie aussi exacte que possible de ses propres œuvres, précipita cette déplorable évolution qui fut consommée lorsqu'en 1736, Oudry, chargé de surinspecter les travaux, transforma la manufacture en fabrique de tableaux à laine, de tableaux en laine, agrandis, destinés à s'encastrer dans les boiseries de petits salons, au plafond bas et aux doux éclairages. Les tapisseries sont réduites alors à l'état de petits décors aimables. Elles se plient à toutes les joliesses et à toutes les subtilités qu'il plaît au modèle peint de lui imposer. En lui faisant oublier le sens de la grandeur, en la réduisant au petit, petite dimension, petite échelle, petit plan, en l'enchaînant à l'imitation servile, Oudry coupa les ailes au lyrisme foncier de l'art de la tapisserie. L'héroïque poème, chanté depuis des siècles, se tut. La tapisserie avait perdu son âme. Contre le crime, les gobelins se cabrèrent. Il y eut révolte. Les lissiers rompirent tout contact avec le surinspecteur et les chefs d'atelier s'abstinrent de paraître à la manufacture les jours de visite d'Oudry. Et, nous dit un texte de l'époque, ils éconduisirent sur de prétendues raisons de fabrique tous nos habiles maîtres. Le conflit dura 30 ans, sans que le surintendant des bâtiments de l'époque, le Normand de Tournéant, pût se décider à le trancher. Les arguments des lissiers étaient irréfutables. On ne peut, plaidait ceci, disconvenir que ce ne soit à l'entrepreneur, c'est-à-dire au chef d'atelier, à conduire ses propres ouvrages. Personne ne peut avoir une connaissance plus exacte que lui de ce qui est nécessaire pour les porter à leur perfection. Et supposer qu'il ait besoin de conseils, il lui est toujours aisé de s'aider de celui des plus habiles peintres d'histoire, c'est-à-dire de celui qui a fait tout de même la peinture. Cette révolte contre Oudry fut une des plus violentes manifestations d'indépendance qui secoua la manufacture des Gobelins. Elle fut un acte de self-défense. Elle voulait être aussi un cri d'alarme, avertisseur d'un désastre prochain. L'abondance des tons entraînait fatalement l'abandon de la technique des tons restreints. Le vieux moyen pur et noble, base de la technique tapissière, les hachures, est remplacé par le système des mélanges pigmentaires. Déjà, Guillaumeau, qui fut directeur des Gobelins pendant la Révolution, avait pu alors s'écrier triomphalement « Aujourd'hui, que l'art du teinturier dans la dégradation des nuances est parvenu à un degré de perfection tel qu'on croirait impossible de l'atteindre si on n'envoyait pas la preuve à l'exécution. Aujourd'hui, une tapisserie des Gobelins n'est plus une tapisserie, c'est la copie d'un tableau peint avec de la laine et de la soie. Et certes, l'illusion était si complète qu'on peut parfois s'y tromper. Mais cette victoire, qui s'amplifiera encore pendant plus d'un siècle, ne sera qu'une victoire à la Pyrrhus. La dégradation des nuances ne sera autre chose que la décrépitude de l'art. Cette grande tentation contre laquelle le XVIIIe siècle n'avait pas voulu se défendre, le XIXe y céda complètement par goût de la facilité, par ambition mal comprise, nous dirions par déviationnisme. La virtuosité, comme toujours, dépasse la mesure qui est le fait de l'art. Le teinturier et le lissier furent alors entraînés par cette main du diable qui est devenue la leur, comme on dit d'un pianiste qui ne peut plus maîtriser ses doigts et galope sans frein ni rythme sur le clavier. Chevreul lui-même, le justificateur de la multiplication des tons, en eut bien conscience. La tapisserie, déclara-t-il sans jambage, ne doit pas user son temps à lutter avec la peinture en cherchant à reproduire des détails et des effets pour laquelle elle n'est pas faite. Et il précisait, la structure cannelée, la forme filamenteuse de ses couleurs s'y oppose. Et puis nous ajoutons, teinture n'est pas peinture. L'introduction au XXe siècle dans la fabrication des teintures de colorants synthétiques allait-elle provoquer la catastrophe finale? Ce fut en 1911 que l'atelier de teinture des Gobelins procéda à cette révolution. Les teints qu'on combinait habituellement Les petits teints qu'on combinait habituellement avec les grands teints pour les aviver avaient rendu les couleurs naturelles extrêmement fugaces. Pour tenter de pallier à ce défaut majeur, on pensa remplacer les couleurs naturelles par des couleurs d'anthracène, beaucoup plus vives et aiguës. Si le résultat fut déplorable, et si des tapisseries tissées de 1911 à 1920, tapisserie qui voulait imiter toutes les finesses des toiles impressionnistes, vous voyez que l'erreur continuait depuis Oudry jusqu'à Gustave Geffroy, il ne reste plus guère aujourd'hui que des gris sans accent et des couleurs vineuses. La solution, cependant, était bien dans la fabrication et l'emploi de colorants synthétiques. Aujourd'hui, leur solidité comme leur acuité surpasse celle des colorants naturels. Leur résistance est mesurable préalablement au moyen d'appareils et toute déconvenue est désormais à peu près écartée. Tout revient donc maintenant à une question de discipline intérieure qu'il faut sévère, intransigeant, intransgressible. Ce qu'il faut, c'est s'interdire non seulement l'emploi des couleurs encore fugaces, car il en existe encore, quitte à modifier si c'est nécessaire l'harmonie d'un carton, mais aussi l'usage désordonné des couleurs afin de retrouver le beau métier ancien qui a fait le renom de la tapisserie française et sans le recours auquel il ne peut exister d'art de la tapisserie. C'est une méthode difficile, spartiate, fondée sur l'abnégation et le sacrifice. Depuis le milieu du XIXe siècle, on savait que là était le salut. La solution était réclamée par nombre de commissions officielles depuis 1859. Et en 1919, Marius Martin, qui était directeur de l'école des arts décoratifs, et le peintre Paul Deltombe voulurent appliquer cette loi de la réduction de la palette aux tons simples et solides. Mais ils avaient oublié que cette loi ne pouvait avoir d'effet que si, en même temps, on appliquait cette seconde loi qui lui est liée comme un corollaire et qui reconnaît au lycée la liberté d'interprétation à l'intérieur des normes définies par la grande technique traditionnelle. Un homme de haute culture et de compétences rares eut l'énergie de les appliquer enfin à partir de 1937, Guillaume Janot, qui fut administrateur général de la manufacture des Gobelins de 1935 à 1945. Il fut le restaurateur de l'orthodoxie de la technique tapissière. Il ne demanda pas aux peintres cartonniers de réduire leur propre palette, mais il se refusa de reproduire intégralement et servilement tous les tons de la peinture proposée. Il exigea en même temps de ses lissiers qu'ils interprètent ces tons peints conformément aux impératifs de l'art mural et lainier qui est essentiellement la tapisserie. Il parvint ainsi à baisser le nombre des tons, d'abord à 92, nous en étions aux approches de 1000, pour le tissage de la terre de Marcel Gromaire, commencé en 1938, première production après la réforme, puis à 42 pour la Bretagne de Jean Bouchot, 22 pour les vendanges de Maurice Savin. Aujourd'hui, la moyenne est autour de 30. Les signes du ciel de Picard Ledoux, par exemple, n'en utilisent que 8. C'est en 1939 que Marcel Gromaire, Dubreuil et Jean Dursat, lequel avait déjà fait tisser une tapisserie au Gobelin en 1936 et qui venait d'avoir la révélation de l'Apocalypse d'Angers, sont envoyés par Guillaume Janot à Aubusson pour composer sur place une tenture sur les quatre saisons. De ce contact naquit l'essor, que vous savez, des ateliers aubussonnais, entraînés, rénovés par l'imagination géniale et l'activité créatrice de l'Ursat, qui est certainement un de nos plus grands artistes contemporains et dont le rayonnement est immense. Nous devons cependant nous poser, depuis près de 25 années que la grande réforme est appliquée, une question. Le problème du dégagement de la peinture, du dégagement de la tapisserie hors de la peinture, a-t-il été parfaitement compris et définitivement résolu? On peut encore, malheureusement, en douter. N'a-t-on pu lire, en effet, dans un ouvrage spécialisé et tout récent, une constatation comme celle-ci? Aujourd'hui encore, l'art de la tapisserie reste souvent proche de la peinture de chevalet. Sans doute, la peinture de chevalet tend généralement aujourd'hui vers plus de dépouillement qu'au XVIIIe siècle, bien entendu. Mais son imitation présente d'autres dangers aussi redoutables. On lit encore aujourd'hui des aveux de ce genre. Certains amateurs qui pensent se fonder sur la difficulté artisanale de l'exécution croient y trouver un critère de jugement. On ne saurait pratiquer assez, selon eux, les passages subtils, les modulations. L'auteur fait erreur autant que ceux dont il parle, à moins qu'il l'ait fait par ironie, car ce n'est pas de difficulté artisanale qu'il aurait fallu parler, mais de facilité. Il est facile de compliquer, même subtilement, mais la scène est difficile à pratiquer. Regardons ensemble, par la pensée, cet espace vertical où, entre les gros cylindres horizontaux des ensouples de bois et les montants des coterets, se tendent et tirent avec une force incroyable les deux nappes de fil qui le composent. Ce sont les cordes de l'instrument plastique dont le lissier joue en silence. C'est la harpe des couleurs que ses doigts font vibrer et résonner pour la joie des yeux. Cet espace est comme un empyré, non pas cet empyré d'or des peintures byzantines, où se rencontraient jadis comme à mi-chemin du ciel ou au-delà du ciel, l'homme et la divinité dans de saintes conversations, mais l'empyré blanc, où la main de l'artiste lissier et la laine vivante dialoguent secrètement et élèvent ensemble dans une communion intime le poème tissé et divin des couleurs et des formes. C'est le lieu magique et ouvrier de la création poétique qu'on en respecte le mystère.
C'était en nouvelle diffusion dans le cadre des grandes conférences 300 ans des Gobelins, une tradition d'artisanat et d'art, causerie donnée à l'Université des Annales par Michel Florisson.
Cette conférence de Michel Florisson avait été diffusée pour la première fois le 18 décembre 1961 dans le cadre des grandes conférences.